Et sans surprise, bien sûr, on va revenir sur le conflit au Moyen-Orient avec Daniel Habert. On va évoquer le cessez-le-feu, les opérations dans le détroit d'Ormuz, ainsi que les négociations qui continuent. Alors, paix ou guerre, la question est posée et voici ce qu'en pense Daniel Habert, comme d'habitude, au micro de Blaise van der Linden.
Daniel Habert, bonjour.
Bonjour Blaise, bonjour chers auditeurs.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors Daniel, on a un cessez-le-feu qui est en place depuis un mois, un cessez-le-feu qui est relativement fragile. On observe des opérations dans le détroit d'Ormuz, on voit même le porte-avions Charles de Gaulle, le porte-avions français qui se déplace dans le Golfe. Il y a des négociations et un renforcement des présences américaines dans la région. Daniel, question relativement concrète, paix ou guerre?
Écoutez, vous constatez qu'aucun expert ne se prononce. Et donc la seule chose que je puisse faire aujourd'hui, c'est d'éclairer la réflexion de chacun d'entre eux, de ceux qui nous écoutent, en commençant par essayer de voir clairement les positions de chacune des parties qui sont au conflit, et aussi de regarder quels sont les facteurs décisives qui vont mener à la réponse guerre ou paix que vous posez. Alors, commençons par la position de chacun. Les Américains, ceux qui ont déclenché la guerre, ils ont fait le pari de faire tomber le régime par une action soudaine, puissante. N'oublions pas qu'on a visé 15 000 cibles. Donc c'est énorme et on a accompli des exploits grâce aux Israéliens tout à fait exceptionnels comme l'élimination du guide suprême et de sa bande de dirigeants des gardiens de la révolution, mais ça n'a pas fonctionné. Le pari n'a pas fonctionné, ça arrive. Les gardiens étaient bien préparés et donc pour les Américains, ils intègrent cet échec. Paris ne peut pas être toujours gagné, et donc ils sont à la recherche d'une victoire crédible. Alors, quand ils regardent cette victoire crédible, ils disent, bon, ben, il y a déjà les acquis. Les acquis, c'est que le gouvernement, la gouvernance de l'Iran est très déstabilisée. C'est plus la même, au fond, c'est plus une république islamique, c'est une république, c'est une dictature militaire, qui d'ailleurs a tendance à se radicaliser, surtout chez les nouveaux promus, qui ont remplacé les éliminés. Et puis, ils ont gardé, ça c'est très important, un grand nombre les Américains ont détruit un grand nombre de sites militaires, des sites nucléaires, des sites de lancement de missiles, des stocks de missiles, et surtout, ils ont atteint la capacité industrielle des Iraniens à reproduire des missiles, comme la destruction de la Syrie, etc., et des usines qui fabriquent des missiles. Donc, ils peuvent dire qu'ils ont un acquis. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas pour proposer une victoire crédible à son opinion publique. Il lui faut aussi un accord sur le nucléaire. Et là, c'est très facile à définir. Il faut que cet accord soit meilleur que celui de 2015. Voilà. Et puis aussi, très spécifiquement, il faut trouver une solution à la question des 440 kilos d'uranium enrichi à 60%. Ça, c'est une épine dans le pied de chacun. Les Iraniens, leur but aujourd'hui, ils l'ont atteint, c'est de sauver l'essentiel, c'est-à-dire le régime. Il est toujours là. Ils ont comme intention de garder toujours l'idée que un État souverain a le droit d'avoir un programme nucléaire. Eux, ils disent qu'il est civil. Donc, ils vont se braquer sur cette idée du droit à avoir du nucléaire civil. Et puis, ils ont gardé, et ça, c'est le plus important, une capacité de dissuasion. Ils ont des missiles, ils ont des drones, ils ont ces petits bateaux, ils ont des sous-marins de poche, ils ont des poseurs de mines. Donc, ils ont une capacité de dissuasion qui vise essentiellement les États arabes unis, qui sont la cible principale de la colère des Iraniens, parce que ce sont des Arabes sunnites proches des Israéliens et qui se rapprochent des Israéliens et des Américains. Ils ont Israël, bien sûr, et puis maintenant, ils ont un ensemble de bateaux de guerre, l'armada américaine, comme cible potentielle. Donc ça, c'est la position iranienne. Quant à Israël, Lui, il se concentre sur son objectif principal, qui est ce morceau d'Iran transplanté au Liban, qui s'appelle le Hezbollah. Donc Israël accélère l'organisation du terrain pour repousser la menace du Hezbollah. Voilà. Et du point de vue israélien, ils ont repoussé dans le temps la menace nucléaire iranienne. On ne sait pas de combien de temps, mais quelquefois d'années. Et ils ont montré quand même, avec les Américains, la vulnérabilité de l'Iran. On s'est permis d'attaquer l'Iran, ce qui n'avait pas été fait pendant presque 50 ans, et de ses proxys. Et donc, ils ont un Iran et un réseau autour de l'Iran très affaibli, même s'il est toujours là. Et il reste les autres acteurs. Il y a les États arabes unis qui sont les plus visés et qui ont conclu que il fallait se séparer des autres de ses voisins arabes. Il a quitté l'OPEP et il pourrait quitter ce qu'on appelle le Conseil de coopération des États du Golfe. Et donc ils sont il y a une position spécifique des États arabes unis. La Russie soutient l'Iran mais manque de moyens pour le faire. L'Europe a cessé de dire que ce n'est pas sa guerre, et elle tente de jouer un rôle au moins sur la fin du conflit. Et on voit donc, comme vous l'annonciez dans votre question, le passage du porte-avions Charles de Gaulle, la France étant en pointe sur des initiatives donc qui sont bonnes à prendre. Et puis il reste la Chine, qui est la grande ombre portée sur le Moyen-Orient, qui fait entendre la voix de la stabilité du compromis, et qui profite de cette situation pour apparaître comme le grand leader de ce qu'on appelle le Sud global, c'est-à-dire la grande majorité des pays du monde. Nous sommes le pays stable face aux Américains qui sont agressifs et imprévisibles.
Alors, tout ça est relativement clair, Daniel, hein, mais la question était, sommes-nous en temps de paix ou de guerre? Qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous pouvez nous apporter là-dessus?
Alors, à partir de ce paysage que je viens de décrire, il y a trois facteurs qui vont déterminer la suite des opérations dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent. C'est le facteur temps, c'est le rapport de force et c'est la Chine. Alors, le facteur temps, c'est clair qu'il est du côté de l'Iran. L'Iran a le temps parce qu'il a montré qu'il pouvait résister aussi longtemps qu'on voulait à toutes les pressions, à la fois économiques et militaires. Je pense que l'idée d'étrangler l'Iran par le blocage total du détroit d'Ormuz, qui est une bonne idée en soi, prendra beaucoup de temps. Beaucoup de mois, parce qu'il y a d'abord des échappatoires et parce que l'Iran est capable d'accepter un haut niveau de sacrifice. Israël, du point de vue du temps, a le temps aussi pour lui, parce que plus le temps passe, plus il a le temps d'affaiblir le Hezbollah et de mettre en place toute une organisation au Liban du Sud qui le permet de se prémunir contre cette menace sur cette population israélienne qui est au nord et qui subit les assauts du Hezbollah. C'est Trump, hein, qui est sous la pression du temps, parce qu'il a ce qu'on appelle la pression démocratique, il a l'opinion publique à gérer, il a le 4 juillet 2026, la célébration des 250 ans de la déclaration d'indépendance de 1776, et puis à partir de la mi-septembre, ça sera la campagne pour les élections de mi-mandat. Donc voilà, quant à la Chine, elle a des réserves de pétrole, elle a des alternatives au pétrole, donc son souci dans la région, c'est plutôt à long terme qu'à court terme. Ça, c'est le facteur temps. Le rapport de force, on est clairement dans ce qu'on appelle une guerre asymétrique, mais quand on regarde bien, toutes les guerres depuis 1945 étaient asymétriques. La capacité de nuisance de l'Iran reste élevée. Et en même temps, elle est inconnue. Donc, ça renforce encore cette capacité de dissuasion. Ils ont un certain nombre de choix de cibles à attaquer si eux-mêmes sont attaqués. En revanche, les Américains n'ont pas beaucoup de choix sur les cibles à attaquer. Ce qu'on a lu dans la presse n'est pas très convaincant. Ce qui n'a pas marché dans le passé, qui n'a pas été suffisant, ne marchera pas dans l'avenir. Il reste ces 440 kilos qu'il faut trouver. Donc, si vous voulez, la difficulté pour les Américains, c'est de trouver une façon d'imposer sa force. Et puis, il y a cette rencontre avec la Chine qui est bientôt, hein, c'est ce jeudi et ce vendredi. Est-ce qu'elle sera déterminante? Ça, c'est toute la question.
Et on en parlera dans nos conversations de la semaine prochaine, très sûrement, cette rencontre entre le président américain Donald Trump et le leader chinois Xi Jinping. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Daniel Habert, ce matin dans nos conversations. On se retrouve la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Au revoir.